Chapitre 7. Sur la piste. Madame Pratolungo. Air grosseur. Le docteur remit son foulard dans sa poche et se retourna, tenant sa vaste tabatière, après avoir maîtrisé son émotion. « Eh bien, me dit-il en frappant un coup sur la boîte à thé où il mettait son tabac, oserez-vous maintenant dire à ma charmante Lucille lequel des deux frères l'a quitté à tout jamais ?» Il n'est pas facile de trouver une limite à l'entêtement d'une femme quand un homme lui demande d'avouer qu'elle s'est trompée. Après ce que je venais de voir, je n'aurais pas plus osé avouer la vérité à Lucille que le docteur, et cependant, j'étais trop obstiné pour le reconnaître, du moins pour le moment. Écoutez bien, dit-il, que vous lui fassiez peur, que fût l'héritier ou que fût la chagrinier, c'est tout un. Ce sont ses yeux, qu'elle a encore si faibles, qui en souffriront. Sa vue est encore si imparfaite et si faible que je vous demanderai encore une fois la permission de coucher ici cette nuit, afin de voir demain matin si l'effort que je leur ai imposé aujourd'hui n'a pas été trop grand. Je vous le demande une dernière fois. Auriez-vous l'affreux courage de lui dire la vérité ? Le docteur me mettait enfin au pied du mur. Je fus forcé, bien contre mon gré, d'admettre que ce qu'il y avait de mieux à faire était de lui cacher la vérité jusqu'à nouvel ordre. Je voulus ensuite savoir quelle serait la manière la plus sûre d'expliquer à Lucille l'absence d'Oscar. Le docteur me répondit que ce n'était pas à un homme à en apprendre à une femme sur la question des prétextes et des subterfuges. Je n'ai pas fréquenté aussi longtemps le monde sans y acquérir quelque expérience, me dit-il. Quand il s'agit de mentir et pour se tirer d'une affaire épineuse, croyez-moi, une femme en sait plus qu'un homme. Voulez-vous venir faire un tour avec moi au jardin ? J'ai encore quelque chose à vous dire et j'ai à la fois soif et faim de ceci. » En parlant ainsi, il tira sa pipe qu'il me montra. Je le suivis. Le docteur, après avoir aspiré voluptueusement sa première bouffée, me causa une grande surprise en m'annonçant qu'il avait l'intention d'envoyer sans retard Lucille au bain de mer pour deux raisons. Il voulait affermir sa santé et l'empêcher de faire quelques découvertes pénibles par les cancans du presbytère et du village. Herr Grosse avait de M. Finch et de son ménage la plus triste opinion. Sa méfiance et son aversion pour le recteur surtout n'avaient pas de bornes. Il appelait le pape de Dymchurch le singe à la longue langue et lui attribuait les penchants pervers de cet animal. Le docteur avait choisi Ramsgate comme étant à une distance sûre de Dymchurch et assez près de Londres pour lui permettre d'aller voir Lucille fréquemment. Il ne manquait plus que ma coopération à son plan. Il se chargeait, si je pouvais accompagner Lucille, de parler au singe à la longue langue et nous pourrions partir pour Ramsgate avant la fin de la semaine. Y avait-il quelque obstacle à ce qu'il me proposait ? Aucun. Mon anxiété au sujet de Lucille d'un côté et au sujet de mon père de l'autre n'avait plus, heureusement, de raison d'être. Toutes les lettres de mes sœurs m'annonçaient le rechangement survenu chez mon père, qui, tout vert et fort qu'il était encore, s'était enfin aperçu qu'il n'était plus jeune. L'innocent vieillard s'occupait à faire des collections de papillons et à jouer de la guitare. J'étais contente de pouvoir maintenant consacrer toute mon attention à Lucille. Seule avec elle et loin du presbytère, où elle courait toujours les dangers des bavardages, j'avais la persuasion de la préserver de tout mal pour le moment et de la conserver à Oscar. Je consentis donc de tout cœur aux propositions d'Air Grosse. Il alla chez le recteur lui annoncer la décision qu'il avait prise dans l'intérêt de la santé de sa fille, tandis que, de mon côté, je rejoignis Lucille pour lui annoncer le meilleur prétexte que je pouvais trouver pour expliquer le retard d'Oscar. Je voulais aussi tout préparer pour mon départ. « Parti sans même me dire adieu, sans m'écrire un mot ?» Telle fut la première exclamation de Lucille quand je tâchais de lui expliquer d'une manière aussi satisfaisante que possible l'absence d'Oscar. J'avais cru pouvoir me tirer d'affaire en intervertissant les faits et en lui disant que Nugent avait eu des embarras très sérieux à l'étranger et qu'Oscar était parti tout de suite pour lui porter secours. Ce fut en vain que je lui représentai combien Oscar aimait peu les adieux de quelque espèce qu'ils fussent et que je lui démontrai que l'urgence du départ d'Oscar était si grande qu'il m'avait chargé de faire ses adieux et ses excuses pour lui. J'avais beau lui dire qu'Oscar lui écrirait à la première occasion, elle m'écouta sans croire à mes paroles. Plus je m'efforçais de la convaincre, plus elle s'obstinait à parler du manque de considération que son fiancé montrait pour elle et qui lui semblait inexplicable. Quant à notre voyage à Ramsgate, impossible de lui inspirer le moindre intérêt. À bout d'arguments, j'abandonnai la partie. Oscar doit avoir laissé une adresse quelconque où je puisse lui écrire, me dit-elle. Je ne pouvais que lui répondre qu'il ne savait pas lui-même où il serait peut-être forcé d'aller. « C'est plus ennuyeux que vous ne pensez, » continua-t-elle. « Je crois qu'Oscar a peur d'amener en ma présence son malheureux frère. Il est vrai que son visage m'a épouvantée au premier abord, mais j'ai triomphé de cette sensation et je ne sens plus cette absurde terreur que j'avais lorsque j'étais aveugle. Maintenant que j'ai vu de mes propres yeux ce qu'il était, je me sens une certaine sympathie pour lui. » Je voulais même en parler à Oscar et lui dire d'amener, s'il le voulait, son frère pour le garder auprès de nous. Je voulais justement empêcher ce qui vient d'arriver et qu'il me quittât quand il voudrait voir son frère. Vous êtes bien dur pour moi et j'ai des raisons de me plaindre. » Malgré la mortification que ces paroles m'inspiraient, je me sentais une certaine consolation en songeant que le malheur d'Oscar ne serait pas un obstacle aussi terrible à son retour auprès de Lucille que je l'avais craint tout d'abord. J'avais grand besoin de cette réflexion consolante. Sans que Lucille fût en hostilité ouverte avec moi, il y avait de sa part une froideur que je trouvais encore bien plus dure à supporter. Je déjeunai au lit le lendemain matin et je me levai seulement vers midi, juste à temps pour dire adieu à Hurgrosse, qui partait pour Londres. Le docteur était fort content de sa malade, dont les yeux, loin de souffrir des efforts qu'il leur avait imposés la veille, n'avaient fait qu'en profiter. L'air vivifiant de Ramsgate compléterait la guérison. M. Finch avait bien fait des objections à ce voyage, toujours sur la question de la dépense. Mais qu'importait cela, puisque sa fille était maîtresse de ses actions et de sa fortune? Nous devions partir le lendemain ou le surlendemain au plus tard. Je promis d'écrire à notre bon médecin aussitôt que nous serions établis et il s'engagea de son côté à nous rendre visite peu de temps après notre arrivée. « Elle devra, dit Hurgrosse en me quittant, exercer ses yeux 2 heures tous les jours. Elle pourra les exercer comme elle l'entendra, mais je lui défends expressément de lire et d'écrire jusqu'à ce que je vienne vous retrouver à Ramsgate. » C'est étonnant de voir comme ça fut progresse. Hein, comme je fais me donner des airs quand je rencontrerai M. Seapright, si correct dans sa mise. J'avais des appréhensions sur la manière dont se passerait le reste de la journée après que le docteur m'eût laissé seul avec Lucille. À mon grand étonnement, non seulement Lucille me fit des excuses sur sa conduite de la veille, mais elle se montra parfaitement résignée à la perte temporaire de la compagnie d'Oscar. Ce fut elle, cette fois, et non pas moi, qui fit la remarque qu'Oscar n'aurait pu choisir pour son absence un meilleur moment que celui où sa fiancée ne savait pas encore distinguer un objet rond d'un objet carré. Ce fut elle encore qui déclara que ce petit voyage à Ramsgate viendrait interrompre la monotonie de sa vie et l'habituerait à l'absence d'Oscar. Bref, si la jeune fille avait reçu d'Oscar une lettre qui lui eût enlevé tout sujet d'anxiété sur son compte, Lucille n'aurait pu offrir par son attitude et par ses paroles un contraste plus complet avec sa conduite de la veille. Si là s'était arrêté le changement que je constatais en elle, j'aurais marqué ce jour comme un jour de bonheur complet. Mais malheureusement, il n'en fut pas ainsi. Je remarquai, tandis qu'elle me faisait les excuses dont je viens de parler, une sorte de réticence que je n'avais jamais vue chez elle. Et, chose encore plus singulière, cette réticence et cet embarras se reproduisirent dans l'expression des traits de la vieille Zilla lorsqu'elle entra dans la pièce où nous étions. Je ne pouvais qu'en conclure que l'on me cachait quelque chose et que Lucille et Zilla en éprouvaient plus ou moins de honte. J'ai dit quelque part que je suis facilement portée à soupçonner les autres. C'est pour cela que lorsqu'on me force à soupçonner, je tombe dans l'autre extrême. je choisis naturellement celui qui me semblait le plus suspect, en raison précisément de la confiance que j'avais eue en lui jadis. « D'une manière ou d'une autre, me dis-je, Nugent est au fond de tout ceci. » Maintenant, restait à savoir s'il écrivait à Lucille en continuant à jouer le rôle d'Oscar. Mais la simple idée qu'il pouvait en être ainsi me rendit imprudente et montra à Lucille que j'avais remarqué le changement survenu en elle. « Lucille, lui dis-je, est-il arrivé quelque chose ?»« Que voulez-vous dire ? » demanda-t-elle froidement. « Il me semble que vous êtes changé, commençai-je. »« Je ne vous comprends pas, » me répondit-elle en s'éloignant de moi. Je me tus. Si notre amitié avait été plus nouvelle et moins solide, j'aurais pu lui avouer ouvertement ce qui me passait dans l'esprit. Mais comment aurais-je pu dire à Lucille qu'elle me trompait ? Le lien qui nous unissait eût été rompu. Supprimer la confiance entre deux personnes qui s'aiment, et tout est fini. À partir de ce moment, on se regarde comme des étrangers et on fait des cérémonies. Les gens à l'esprit délicat comprendront pourquoi je ne répondis pas à Lucille. J'allais seule dans le village et, m'arrangeant pour ne susciter aucun soupçon, je fis parler Gouzeriche, l'aubergiste et le domestique des sables au sujet de Nugent. Je me disais que l'un d'eux devait l'avoir vu s'il était revenu au village. Ils me répondirent tous deux qu'ils ne l'avaient pas vu. J'en conclus que le frère d'Oscar n'avait pu avoir une entrevue avec Lucille. Restait à savoir si, adoptant un moyen plus prudent, il lui avait écrit. Je retournai au presbytère. Nous n'étions pas loin de l'heure fixée du consentement de Lucille, maintenant qu'en l'absence d'Herr Grosse, j'en prenais la responsabilité pour qu'elle exerçât sa vue. Je remarquai, en lui enlevant le bandeau, qu'elle évitait de me regarder, ce qui confirma mes soupçons. Cachant autant que possible le chagrin que cela me causa, je lui répétai les injonctions de Herr Grosse et je lui défendis de toucher à un livre ou d'écrire jusqu'à sa prochaine visite. « Il n'y a aucune nécessité de me le défendre, » dit-elle. « Auriez-vous déjà essayé, par hasard ?» lui demandai-je. « J'ai regardé dans un petit livre de gravure, » répondit-elle, « mais je n'ai rien pu distinguer. Les contours s'effacent et s'offrent tout confus à mes yeux. » « Avez-vous essayé d'écrire ?» lui demandai-je ensuite. J'étais honteuse de lui tendre ce piège, mais la nécessité urgente de découvrir si elle correspondait avec Nugent aurait pu assurément m'excuser. « Non !» répondit-elle. Elle rougit en me répondant. En lui faisant cette question, j'étais trop émue pour songer qu'elle pouvait correspondre secrètement avec Nugent sans se servir de ses yeux. Zilla, avant mon arrivée, avait l'habitude de lui lire ses lettres et elle pouvait écrire quelques lignes en se guidant par le toucher. Du reste, ayant appris à lire dans des livres imprimés en relief, rien que l'expérience lui aurait permis d'écrire elle-même si ses yeux avaient été suffisamment exercés pour distinguer de petits objets. Tous ces détails, qui ne me frappèrent pas alors, me revinrent à l'esprit plus tard dans la journée et me firent jusqu'à un certain degré changer d'opinion. J'interprétais sa rougeur comme signe qu'elle soupçonnait mon motif pour l'interroger. Quant au reste, mes doutes sur Nugent ne se dissipèrent point. Je ne pouvais, quoi que je fisse, me débarrasser de l'idée qu'il se jouait de moi et que, d'une façon ou de l'autre, il avait non seulement écrit à Lucille, mais qu'il lui avait recommandé de ne rien m'en dire. Je remis mes recherches au lendemain. J'eus, avant de me coucher, l'idée de questionner Zilla. Mais une réflexion m'arrêta. Je savais par expérience que la vieille nourrice nierait tout, puis instruirait sa maîtresse de ce qui était arrivé. Je connaissais assez Lucille pour savoir qu'après ce qui s'était passé entre nous, une querelle serait inévitable. Les choses allaient assez mal déjà, sans les embrouiller encore plus. Je résolus, quand le matin arriva, de surveiller la vieille nourrice et les abords du bureau de poste. Je reçus une lettre de France. L'adresse était de l'écriture d'une de mes sœurs. Nous nous écrivions d'ordinaire tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. J'avais déjà reçu une lettre une semaine auparavant. Allais-je apprendre une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Je l'ouvris. Elle contenait une dépêche qui annonçait que mon pauvre cher père était à Marseille, dangereusement blessé. Mes sœurs étaient allées le retrouver et me suppliaient de venir les rejoindre aussi vite que possible. Raconterai-je la cause de cet horrible malheur qui commençait naturellement par un enlèvement et qui finissait par un duel avec un jeune homme? J'ai dit combien mon père était susceptible et combien il était brave. Hélas, c'était toujours la même chose. Il y a un proverbe qui décrit bien cela. « Qui a bu, boira, etc., etc. » Tirons le rideau, je veux dire, terminons ce chapitre.